Chapitre 7. À cette époque, un grand changement survint en notre existence. Mes parents, se trouvant trop à l'étroit dans notre petite maison, achetèrent une propriété plus vaste et qu'ils convoitaient depuis longtemps. Il y avait une grille, de très vieux arbres, une charmille, un verger, et parmi des rocailles écroulées, les restes d'un ancien jet d'eau. L'habitation, toute blanche, avec son haut toit d'ardoise, offrait de la route, au regard des promeneurs, un aspect imposant et presque seigneurial, disaient mes sœurs. De fait, cette maison nous classait dans le pays, nous élevait d'un rang au-dessus des petits bourgeois non hiérarchisés. Mes sœurs prenaient des airs plus hautains et déjà jouaient comiquement à la grande dame. Elles espéraient aussi, espoir formellement partagé par toute la famille, trouver avec le prestige de cette maison de sortables maris. Mais tout cela ne s'était pas accompli sans de longues réflexions, sans de longues et émouvantes et angoissantes hésitations. Durant des mois et des mois, on avait pesé le pour et le contre, élevé d'inextricables objections, établi des comptes enchevêtrés, mesuré la hauteur des plafonds, la largeur des fenêtres, la profondeur des placards, sondé la solidité des murailles, espionné le tirage des cheminées. Surtout ma mère, qui manquait en toute chose de décision. Elle ne pouvait, ma mère, se résoudre à prendre un parti, même dans les actes les plus ordinaires, les plus renouvelés de la vie de ménage. Et pour l'achat d'une robe, d'un paquet de navets, d'une pelote de fil, elle ne cédait, après des soupirs et des froncements de sourcils, que talonnée par la nécessité. Je me souviens encore des inénarrables négociations qu'elle ouvrit avec un cordonnier pour l'achat d'une paire de bottines. Ces négociations durèrent 2 ans, pendant lesquels je marchais avec des chaussures trouées. L'affaire terminée, l'acte de vente signé, ma mère fut comme écrasée de sa hardiesse. Non, cela n'était pas possible. Cette résolution irréparable qui coupait court aux réflexions, aux objections, aux hésitations, aux mais, aux si, aux car, lui parut une surprise violente, une criminelle effraction de sa volonté. Quelque chose comme une catastrophe soudaine, terrible, à laquelle il était impossible de s'attendre. Et sans cesse, elle gémissait. « Une si grande maison, et peut-être de l'humidité, et tant de terrain, ah mon Dieu, mais qu'allait-on devenir là-dedans ?» La pensée d'une installation nouvelle, discutée pourtant, prévue dans ses plus méticuleux détails, l'accabla comme une tâche trop lourde pour elle, lui cassa les bras, lui aplatit le cerveau. Elle chercha des moyens bizarres de rompre le marché. « Mais puisque c'est signé, disait mon père, puisque tu as signé, voyons. »« j'ai signé, reprenait ma mère. « Eh bien, ce n'est pas une raison, je puis m'être trompée. Il doit y avoir des motifs d'annulation. D'abord, je n'ai pas signé de bon cœur. Et puis, admets que la toiture s'effondre demain. »« Eh bien, je dis que cela n'est pas juste, qu'on aurait pu attendre, et que, si tu voulais bien... » Et comme mon père impatienté haussait les épaules, « Oh, toi, je sais !» reprochait ma mère. « Toi, d'abord, tu n'as jamais su ce que c'est que l'argent. » Il lui fallut plusieurs semaines pour s'habituer à cette effarante idée que le marché était irrévocable, qu'il n'y avait pas à y revenir, ainsi comme mon père le lui expliquait, le code en main. Enfin, un beau jour, elle finit par déclarer. « Après tout, nous avons été si longtemps gênés et mal à l'aise que nous pouvons bien nous donner le plaisir d'un peu de confortable. »« Bien sûr !» appuya mon père. « Et te voilà enfin raisonnable. Mon Dieu, la vie n'est déjà pas si longue !» « Un peu de bon temps, va, ça n'est pas de trop, quand on le peut. »« Ça, c'est vrai, conclut ma mère, rassurée et joyeuse. Et puisque les enfants sont contents,
avoue tout de même que nous nous sommes trop précipités. Et puis, cette grande maison, jamais nous ne pourrons l'entretenir avec nos deux domestiques.
Mais si, tu prendras une petite fille en plus, une petite fille de 10 francs par mois.
Enfin, pourvu qu'on soit heureux, pourvu qu'on soit bien.
À partir de ce moment, ma mère, sérieuse et active, rôda dans la maison, s'arrêtant devant chaque objet, ayant avec chaque chose d'étranges colloques. Un matin, elle dit au déjeuner, très grave,
« Il va falloir faire de grandes économies. J'ai beaucoup réfléchi. Ainsi, le salon. Nous n'avons pas besoin d'un salon. Nous voyons si peu de monde. On pourrait vendre les meubles du salon. »
« Oh, mère !» fit ma sœur aînée. « Moi, je pensais qu'on l'aurait arrangé encore mieux. »«
Est-ce toi qui paies ?»
dit ma mère avec un regard dur.
« Tais-toi, c'est comme ton piano, tu n'en joues jamais. À quoi sert-il ton piano ?»«
Oui, pas d'encombrement, j'en ai assez. » »«
Mais, petite mère, le piano, tu l'as acheté avec nos économies, nos petits cadeaux du jour de l'an. » Si je n'en joue pas, c'est parce que tu ne veux pas que l'accordeur vienne pour le réparer. Enfin, il est à nous, le piano.
Rien n'est à vous ici, entendez-vous ?
Gronda ma mère. Et s'adressant à mon père, qui ne disait mot,
c'est comme le cheval, la voiture. Qu'avons-nous besoin de cela ? Nous ne sortons presque jamais. Je crois que nous pourrions les vendre. Cela ferait une fameuse économie.
Mais enfin, objecta mon père. On ne peut pourtant pas tout vendre. Nous n'avons pas acheté cette maison pour nous priver de tout ce qui nous fait plaisir.
Le lendemain, ce fut encore plus terrible.
Nous renverrons les domestiques, déclara ma mère. Les enfants feront le ménage. Je prendrai une femme de journée pour les gros travaux.
Tout le monde sursauta. Mon père intervint.
Comment ? « Toi-même, tu disais que tu ne pourrais entretenir la maison avec ton monde. C'est de la folie. Et le jardin, y penses-tu au jardin ? Moi, tu sais, je tiens à mes légumes, à mes arbres, à mes fruits. »
« Des fruits. Nous avons eu 20 poires cette année. Je n'ai même pas pu faire de gelée de pommes avec tes fruits. Non, non, plus de gaspillage, plus d'encombrement. Tu agiras avec ton jardin, comme moi avec ma maison. Tu prendras un homme de journée, un jour par semaine. »
« Ce n'était pas la peine, alors, d'acheter une maison plus grande si tu dois tout vendre et tout renvoyer. » Ma mère eut un regard de triomphe.
« Ah, te l'ai-je assez dit ? T'ai-je assez averti que tu commettais une sottise, une folie ? » ?»«
Mais c'est toi qui as eu l'idée de cette maison. C'est toi qui te trouvais trop petitement ici. » »«
Allons, voilà que c'est moi maintenant. Je suis fâchée de te le dire, mais tu n'as pas de conduite. » Tu n'as pas de dignité. »
Les scènes se renouvelèrent souvent. Il fut décidé qu'on n'allumerait plus de lampes le soir dans le couloir, qu'on supprimerait un plat au repas, qu'on remplacerait le feu de bois par le feu de coq, qu'on ne garderait rien, rien de ce qui avait été notre pauvre petit luxe, notre humble bien-être. Et nous entrâmes un beau matin dans la grande maison presque vide. Les enchères publiques avaient éparpillé aux quatre coins du pays nos meubles, nos habitudes, nos menus joies quotidiennes. Il ne restait que ça et là une armoire, une chaise, une table, un lit. Et c'était si triste, cette maison, ces immenses pièces froides et revêches, ces fenêtres nues, par où s'apercevait la détresse des pelouses, l'abandon des allées, que je me mis à pleurer, je ne sais trop pourquoi, d'ailleurs, car je n'attachais pas un prix si précieux à ces choses disparues qui n'avaient jamais contenu pour moi une parcelle de bonheur. Et quoique je pleurasse dans un coin de la pièce où nous étions réunis et silencieux, je ne pouvais m'empêcher de goûter, avec ces pleurs, une joie amère, la joie d'assister à la déconvenue de mes sœurs, dans les yeux desquelles je voyais la déroute des espoirs, la fuite des maris, la peur des éternelles virginités. Chapitre 8. Ces pages que j'écris ne sont point une autobiographie selon les normes littéraires. Ayant vécu de peu, sans bruit, sans nul événement romanesque, n'ayant commis que des actes incohérents, toujours solitaire, même dans ma famille, même parmi mes amis d'autrefois, même au milieu des foules, un instant coudoyé, je n'ai pas la vanité de penser que ma vie puisse offrir le moindre intérêt ou le moindre agrément à être racontée. Je n'attends donc de ce travail nulle gloire, nul argent, ni la consolation de songer que je puis émouvoir l'âme d'une dame vieille et riche. Je suis, dans le monde qui m'entoure de son ignorer, un trop négligeable atome, et personne n'a souci de moi. Et pourquoi quelqu'un sur la terre se préoccuperait-il du silencieux insecte que je suis ? J'ai volontairement, ou par surprise, je ne sais, rompu tous les liens qui m'attachaient à la solidarité humaine. J'ai refusé la part d'action, utile ou malfaisante, qui échoit à tout être vivant. Je n'existe ni en moi, ni dans les autres, ni dans le rythme le plus infime de l'universelle harmonie. Je suis cette chose inconcevable et peut-être unique, rien. J'ai des bras, l'apparence d'un cerveau, les insignes d'un sexe, et rien n'est sorti de cela, rien, pas même la mort. Et si la nature m'est si persécutrice, c'est que je tarde trop longtemps, sans doute, à lui restituer ce petit tas de fumier, cette menue pincée de pourriture qui est mon corps, et où tant de formes, charmantes qui sait, tant d'organismes curieux attendent de naître, pour perpétuer la vie, dont réellement je ne fais rien, et que, lâchement, j'interromps. Qu'importe donc si j'ai pleuré, si parfois j'ai labouré du soc de mes ongles ma sanglante poitrine. Au milieu de l'universelle souffrance, que sont mes pleurs ? Que signifie ma voix, déchirée de sanglots ou de rires, parmi ce grand lamenteau qui secoue les mondes, affolé par l'impénétrable énigme de la matière ou de la divinité. Si j'ai dramatisé ces quelques souvenirs de l'enfance qui fut mienne, ce n'est pas pour qu'on me plaigne, pour qu'on m'admire, pour qu'on me haïsse. Je sais que je n'ai droit à aucun de ces sentiments dans le cœur des hommes. Et qu'en ferais-je ? Est-ce la voix du suprême orgueil qui parle en moi à cette heure ? Tentais-je d'expliquer, d'excuser par de trop subtiles raisons la retombée de l'ange que j'aurais pu être, à l'immonde, à la croupissante larve que je suis ? Oh non, je n'ai pas d'orgueil, je n'ai plus d'orgueil. Chaque fois que ce sentiment a voulu pénétrer en moi, je n'ai eu, pour le chasser, qu'à porter les yeux vers ce ciel, vers ce gouffre épouvantant de l'infini, où je me sens plus petit, plus inaperçu, plus infinitésimal que la diatomée perdue dans l'eau vaseuse des citernes. Oh non, je le jure, je n'ai plus d'orgueil. Ce que j'ai voulu, c'est, en donnant à ces souvenirs une forme animée et familière, rendre plus sensible une des plus prodigieuses tyrannies, une des plus ravalantes oppressions de la vie dont je n'ai pas été seule à souffrir, hélas, c'est-à-dire l'autorité paternelle. Car tout le monde en souffre, tout le monde porte en soi, dans les yeux, sur le front, sur la nuque, sur toutes les parties du corps où l'âme se révèle, où l'émotion intérieure afflue en lumières attristées, en spéciales déformations, le signe caractéristique et mortel, l'effrayant coup de pouce de cette initiale, ineffaçable éducation de la famille. Et puis, il me semble que ma plume qui grince sur le papier me distrait un peu de l'effroi de ce silence, de l'effroi de cette solitude, de l'effroi de ces poutres, où pèse sur ma tête quelque chose de plus lourd que le ciel du jardin, la terreur de la nuit.
Et puis, il me semble encore que les mots que je trace deviennent des êtres, des personnages vivants, des personnages qui remuent, qui parlent, qui me parlent. Ah, concevez-vous la douceur de cette chose inespérable ? Qui me parle ? J'ai aimé mon père, j'ai aimé ma mère, je les ai aimés jusque dans leur ridicule, jusque dans leur malfaisance pour moi. Et à l'heure où je confesse cet acte de foi, depuis qu'ils sont tous les deux là-bas, sous l'humble pierre, chairs dissolues et vers grouillants, je les aime, je les chéris plus encore. Je les aime et je les chéris de tout le respect que j'ai perdu. Je ne les rends responsables ni des misères qui me vinrent d'eux, ni de la destinée indicible que leur parfaite et si honnête inintelligence m'imposa. Ils ont été ce que sont tous les parents, et je ne puis oublier qu'eux-mêmes souffrir, enfant, sans doute ce qu'ils m'ont fait souffrir. Legs fatals que nous nous transmettons les uns aux autres avec une constante et inaltérable vertu. Toute la faute en est à la société, qui n'a rien trouvé de mieux pour légitimer ses vols et consacrer son suprême pouvoir, surtout pour contenir l'homme dans un état d'imbécilité complète et de complète servitude, que d'instituer ce mécanisme admirable de gouvernement, la famille. Tout être, à peu près bien constitué, naît avec des facultés dominantes, des forces individuelles, qui correspondent exactement à un besoin ou à un agrément de la vie. Au lieu de veiller à leur développement, dans un sens normal, la famille a bien vite fait de les déprimer et de les anéantir. Elle ne produit que des déclassés, des révoltés, des déséquilibrés, des malheureux, en les rejetant, avec un merveilleux instinct, hors de leur moi, en leur imposant, de par son autorité légale, des goûts, des fonctions, des actions qui ne sont pas les leurs et qui deviennent non plus une joie, ce qu'ils devraient être, mais un intolérable supplice. Combien rencontrez-vous dans la vie de gens adéquats à eux-mêmes ? J'avais un amour, une passion de la nature, bien rare chez un enfant de mon âge. Tout m'intéressait en elle, tout m'intriguait. Combien de fois suis-je restée des heures entières devant une fleur, cherchant, en d'obscurs et vagues tâtonnements, le secret, le mystère de la vie. J'observais les araignées, les fourmis, les abeilles, avec des joies profondes, traversées aussi de ces affreuses angoisses de ne pas savoir, de ne rien connaître. Souvent, j'adressais des questions à mon père, mais mon père n'y répondait jamais et me plaisantait toujours. « Quel drôle de type tu fais !» me disait-il. « Où vas-tu chercher tout ce que tu me racontes ? Les abeilles ? Eh bien, ce sont les femelles des bourdons, comme les grenouilles sont les femelles des crapauds. Et elles piquent les enfants paresseux. Es-tu content ?» Je n'avais ni livre, ni personne pour me guider. Rien ne me rebutait, et c'était une chose vraiment touchante que cette lutte d'un enfant contre la formidable et incompréhensible nature. Un jour, qu'on creusait un puits à la maison, je conçus, tout petit et ignorant que je fusse, la loi physique qui détermina la découverte des puits artésiens. J'avais été souvent frappé, dans mes quotidiennes constatations, de ce phénomène de l'élévation des liquides dans les vases se communiquant. J'appliquais, par ce raisonnement, cette théorie innée et bien confuse encore dans mon esprit, aux nappes d'eau souterraines, et je conçus la possibilité d'un jaillissement d'eau de source au moyen d'un forage dans un endroit déterminé du sol. Je fis part de cette découverte à mon père. Je la lui expliquai, du mieux que je pus, avec un afflux de paroles et de gestes qui ne m'étaient pas habituels. « Qu'est-ce que tu me chantes là ? » s'écria mon père. « Mais c'est le puits artésien que tu as découvert !» Et je vois encore le sourire ironique qui plissa son visage glabre et dont je fus tout humilié. « Je ne sais pas, » balbutiai-je. « Je te demande. » Mais petite bourrique, il y a longtemps que c'est découvert. Je parie que demain tu découvriras la lune. »
Et mon père éclata de rire. Ce rire, comme il me fit mal.
Ma mère survint.
« Tu ne sais pas, nous avons un grand homme pour fils. Le petit vient de découvrir les puits artésiens. »
« Oh, l'imbécile !» dit ma mère. « Il ferait mieux d'apprendre son histoire sainte. »
Ce fut au tour de mes sœurs qui accoururent, avec leurs visages pointus et curieux.
« Saluez votre frère, il vient de découvrir les puits artésiens. »
« Il ne sait quoi inventer pour être ridicule !»
glapirent-elles en me tirant la langue.
Puis enfin les voisins, les amis, tout le pays surent bientôt que j'avais découvert un moyen de creuser les puits, comme on enfonce une cuillère dans un pot à beurre. Et ce fut au tour de ma pauvre petite personne humiliée, un éclat de rire, les moqueries universelles. Je sentis le mépris de toute une ville peser sur moi, et je faillis mourir de honte. Il fut décidé qu'on me mettrait au collège pour m'apprendre à vivre.
Chapitre 9. Je passe sur mes années de collège. D'ailleurs, je puis d'un mot caractériser l'effet moral qu'elles eurent sur moi. Elles m'abrutirent. L'éducation que je reçus là fut une aggravation de celle commencée dans ma famille. À la maison, il est bien rare que l'enfant n'ait ressenti une sorte de chaleur, d'affection, en même temps qu'une sorte de sécurité intime qui lui tienne lieu d'idées et de notions précises de la vie. C'est souvent quelque chose de vague et qui pourtant lui est un appui. L'amour est si fort que même inintelligent, même médiocre, il ouvre à l'âme tout un horizon de beauté morale. Au collège, rien de pareil. L'enfant est remis entre les mains indifférentes et lourdes de mercenaires à qui rien ne le rattache, ni l'intérêt, ni la tendresse, ni la vanité. Ils arrivent, se hâtent et s'en vont. Et puis, je ne sais quel intolérable ennui émane de cet ensemble d'absurdités, de mensonges et de ridicules diplômés qu'est un professeur. Loin de nous intéresser aux devoirs qu'il enseigne en leur donnant de l'agrément et de la vie, le professeur vous en dégoûte, comme d'une laideur. Tout en lui prend un aspect de gravité raide et gourmée, de dogmatisme prud'homesque qui tue la curiosité dans l'esprit de l'enfant, au lieu de la développer. Avec une sûreté merveilleuse, avec une miraculeuse précision, le professeur enduit les intelligences juvéniles d'une si épaisse couche d'ignorance, il étend sur elles une crasse de préjugés si corrosive qu'il est à peu près impossible de s'en débarrasser jamais. Il en est parmi ces jeunes âmes qui se rebellent contre cette effrayante discipline de médiocrité. Je les admire, mais comme je les plains, que de difficultés, que de malheurs la vie ne leur réserve-t-elle pas. Je me rappelle que sur la cheminée de la salle à manger, il y avait un groupe en plâtre, acheté par ma mère à un petit ambulant italien, et qui figurait des enfants nus jouant aux billes. C'était hideux, mais tel était le goût artistique de ma mère. Par malheur, les mouches ne cessaient de déposer sur le plâtre des taches brunâtres qui faisaient la désolation de ma famille. Mes sœurs, à qui la garde de cette œuvre d'art était dévolue, avaient beau les gratter, les laver, les saupoudrer de farine, ces inconvenantes saletés ne disparaissaient pas. Au contraire, elles pénétraient plus avant dans le grain du plâtre, ou s'élargissaient à la surface, indélébiles. En quelques années, le groupe devint tout noir. Il fallut le jeter aux ordures. Ces chures de mouches me représentaient exactement les leçons du professeur.
et j'avais la conscience que ma petite personnalité disparaissait peu à peu sous ce dépôt excrémentiel et quotidien. Oh, le professeur ! J'ai connu un jeune homme qui avait gardé de son professeur un incomparable et extraordinaire souvenir. Il lui dédiait ses livres, car c'était un homme de lettres. Il le remerciait, publiquement, avec quels enthousiasmes, d'avoir éveillé son âme à une foule de beauté, de lui avoir dévoilé les mystères de la nature. Ai-je besoin de dire que je ne rencontrais jamais cet inconcevable Dieu ? Mes professeurs, à moi, m'apprirent que seule la force physique est belle et enviable, et j'étais faible. Ils me forcèrent à révérer les vertus grossières, les actes lâches, les passions animales, la supériorité des brutes et l'héroïsme des boxeurs. Je sortis du collège dépourvu de tout et discipliné à souhait. À force d'être rebuté, j'avais perdu le goût de la recherche et la faculté de l'émotion. Mes étonnements, mes enthousiasmes devant la nature, qui avaient un moment soutenu mon intellect à une hauteur concevable, qui m'avaient préservé des bassesses contagieuses où croupissaient mes sœurs, étaient tombés. Je n'avais plus de désir, d'inspiration vers les grandes choses. J'étais mûr pour faire un soldat, un notaire, ou tel fonctionnaire larveux qui plairait à mon père que je fusse. Et je ne songeais pas à discuter les décisions ultérieures qu'il prendrait contre mon honneur. Il y eut alors de longs conseils de famille, où toutes les positions sociales furent passées en revue. Il n'était nullement question des aptitudes que je pouvais montrer pour telle ou telle fonction, mais seulement des avantages sociaux et pécuniaires qu'elles comportaient. Il résulta de ces interminables conciliabules, qui se passaient d'ailleurs en dehors de moi, que rien ne prenait et qu'en attendant une détermination, je travaillerais à copier des rôles chez un notaire. « C'est un bon exercice, » disait mon père, « et qui réserve l'avenir. » C'est à cette époque que se passa dans ma vie un extraordinaire événement et qui m'apprit ce que c'est que l'amour. Ma tante, je l'ai dit, était une femme singulière et qui ne mettait pas beaucoup de logique dans ses actions. Un jour, elle m'accablait de tendresse et de cadeaux. Le jour suivant, elle me battait, sans raison. En tout ce qu'elle faisait, elle semblait obéir aux suggestions d'une incompréhensible folie. Quelquefois, elle restait des journées entières enfermée dans sa chambre, triste, pleurant, on ne sait pourquoi. Et le lendemain, elle chantait, prise de gaieté bruyante et de dévorantes activités. Souvent, je l'ai vue remuer dans le bûcher de grosses bûches de bois, bêcher la terre, plus ardente au travail qu'un terrassier. Elle était fort laide, si laide que jamais personne ne l'avait demandée en mariage. On pensait, dans la famille, qu'elle souffrait beaucoup de son état de vieille fille. La figure coupe rosée, la peau sèche et comme brûlée, soulevée en squam, par du feu intérieur, les cheveux rares et courts, très maigres, un peu voûtés, ma pauvre tante était vraiment désagréable à voir. Ses subites tendresses me gênaient plus encore que ses colères. Elle avait, en m'embrassant furieusement, des gestes si durs, des mouvements si brusques, que je préférais encore qu'elle me pinçât le bras. À mon retour du collège, son affection, comme ses méchancetés, prirent une tournure qui m'épouvanta. Quelquefois, après le dîner, elle m'entraînait, en courant comme une petite fille, vers le fond du jardin. Il y avait là une salle de verdure, et dans cette salle, un banc. Nous nous asseyions sur le banc sans rien nous dire. Ma tante ramassait sur le sol une brindille morte et la mâchait avec rage. Sa coupe rose s'avivait de tons plus rouges. Sa peau écailleuse se bandait sur l'arc tendu de ses os. Et dans ses yeux congestionnés par un afflux de sang, d'étranges lueurs brillaient. « Pourquoi ne me dis-tu rien ? » demandait-elle après quelques minutes de silence gênant. « Mais ma tante... »« Oh, regarde, comme tu es mal cravatée !» Quel petit désordre tu fais !» Et, m'attirant près d'elle, elle arrangeait le nœud de ma cravate, avec des gestes vifs et heurtés. Je sentais les os de ses doigts se frotter à ma gorge, et son souffle fade, d'une chaleur aigre, offusquait mes narines. J'aurais bien voulu m'en aller, non que je soupçonnasse un danger quelconque, mais toutes ces pratiques m'étaient intolérables. Puis, tout à coup, ma tante se levait, piétinait la terre avec impatience, et me lançait un vigoureux soufflet. « Tiens, attrape, tu es un sot, tu es une petite bête, une vilaine petite bête !» Et elle partait vivement, étouffant dans sa course le bruit d'un sanglot. Un après-midi, nous étions assis sur le banc dans la salle de verdure. « Pourquoi regardes-tu Mariette ?» me dit ma tante brusquement. Mariette était une petite bonne que nous avions alors. « Mais je ne regarde pas Mariette !» répondis-je, étonné de cette question. « Je te dis que tu la regardes. Je ne veux pas que tu la regardes. Je le dirai à ta mère. »« Je t'assure, ma tante, » insistai-je. Mais je n'eus pas le temps d'achever ma phrase. Enlacée, étouffée, broyée par mille bras, on eût dit par mille bouches, je sentis l'approche de quelque chose d'horrible, d'inconnu, puis l'enveloppement sur moi d'une bête atroce. Je me débattis violemment. Je repoussai la bête des dents, des coudes, des ongles, de toute la force décuplée par l'horreur de son corps. « Non, non, je ne veux pas » criai-je. « Ma tante, je ne veux pas, je ne veux pas !»«
Mais tais-toi donc, imbécile !»
râlait ma tante, ses lèvres roulant sur mes lèvres.
« Non, cessez, ma tante, cessez, ou j'appelle maman !»
L'étreinte mollit, quitta ma poitrine, mes jambes, mes lèvres délivrées purent aspirer une bouffée d'air frais, et, entre les branches, je vis ma tante fuyant dans l'allée vers la maison. Je n'osais rentrer que le soir, à l'heure du dîner, inquiet à l'idée de revoir ma tante. « Ta tante est partie, » me dit mon père, le front soucieux. « Elle a eu une discussion avec tes sœurs. Elle est partie. » Et il ajouta, « Oh, je la connais, elle ne reviendra pas. » « C'est embêtant. 3 000 francs de rente perdue, c'est embêtant. » Le dîner fut morose et silencieux. Chacun regardait la place vide. Nous n'avons jamais revu ma tante. Jamais nous n'avons eu de ses nouvelles. « Oh, ma pauvre tante, créature lamentable et douloureuse, où es-tu ? Et pourquoi ne t'ai-je pas donné le bonheur que tout le monde t'avait refusé ?